Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes jeudi 18 janvier 2024. Auditeurs et auditrices, bienvenue à ce 18h de Studio Tamani présenté par Juliette Koulibaly. Philippe Dambélé assure la technique. Voici les titres de cette édition. La tournure judiciaire de l'affaire de l'énergie du Mali s'est accélérée ce mercredi. La Cour suprême a instruit au pôle national économique et financier d'entendre certains hauts cadres du gouvernement. L'association Solidarité pour le Sahel, Solisa, a été dissoute par le gouvernement. Elle est accusée d'être un outil de financement des activités de certains groupes armés du CSP. Nous sommes à la deuxième journée de la phase de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous vous ferons le bilan de la première journée dans cette édition. Possible assignation d'autres personnalités occupant des hauts postes dans l'affaire dite EDMSA. Après l'interpellation et la mise à garde à vue de plusieurs cadres de la société EDM, les investigations et les auditions se poursuivent. Celles-ci risquent de déboucher sur la découverte des racines de la crise ayant provoqué les défaillances que connaissent l'EDMSA depuis un moment. Le point avec Mohamed Ag Issafétane.
Selon des sources proches du dossier, certaines personnalités seraient convoquées ce jeudi 18 janvier à la brigade du pôle économique et financier. Il s'agit des membres du conseil d'administration de l'EDM qui avaient statué sur l'attribution du marché des 27 groupes électrogènes destinés à l'énergie du Mali. En lien avec cette interpellation, la justice cherche à auditionner plusieurs membres actifs de la transition. Il s'agit de deux membres du gouvernement et d'un conseiller spécial du président de la transition. Dans la même perspective, le 10 janvier dernier, plusieurs autres anciens cadres de l'EDM, SA, ont été placés en garde à vue par la brigade du pôle national économique et financier. Il s'agit entre autres du directeur général sortant de l'EDM, Kouréchi Kounaré, Aminata Niane, Mamadou Sidibé, Boubacar Diallo et Lamine Seydou Traoré, ancien ministre de l'énergie et de l'eau. Pour rappel, la justice malienne dit avoir recouvré il y a quelques jours au profit de l'EDMSA le montant de 4,8 milliards de francs CFA, représentant la valeur de 6 millions de litres de carburant.
L'association des consommateurs du Mali, Ascoman, se réjouit de cette volonté du gouvernement affichée pour assainir la gestion de l'EDMSA. Les responsables de l'association exhortent les autorités à poursuivre les actions jusqu'au nettoyage total du secteur. Maran Fofana est le vice-président de l'Ascoman. Il y réagit au micro de Fatih Yatara.
On a toujours recommandé aux différents gouvernements de faire l'audit de la structure. Bien sûr, aujourd'hui, les autorités actuelles sont passées dans ce sens et nous nous en félicitons. Et nous disons que vraiment qu'ils poursuivent et qu'ils nettoient carrément l'EDM avant toute investigation. Nous avons même écrit au ministère de l'énergie pour dire que nous soutenons les actions du ministre. Donc, pour me résumer, je dirais carrément que l'ASCOMAN soutient les actions en cours et nous souhaitons que ça se poursuive jusqu'à un nettoyage total.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Autre actualité de cette édition, le gouvernement de transition a annoncé hier la dissolution de l'association Solidarité pour le Sahel, connue sous le nom Solisa. Cette décision prise en Conseil des ministres de ce 17 janvier 2024 est justifiée, selon le gouvernement, par le fait que cette association est devenue un outil de financement des activités des groupes armés signataires du CSP-PSD. Lalaïcha Walet Infa nous en dit plus.
Dans le communiqué du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé que des investigations ont permis d'établir que cette association est un outil de financement des activités des groupes armés signataires du CSP-PSD, une entité des groupes armés hostiles à l'unité du pays, souligne le gouvernement. Les autorités maliennes protestent contre ces pratiques et estiment que ces agissements sont de nature à contribuer au financement du terrorisme et au blanchiment des capitaux constitue une menace pour la paix et porte atteinte à l'intégrité du territoire national, précise le communiqué. Il faut rappeler que l'association Solidarité pour le Sahel était un partenaire de l'État malien pendant plusieurs années. Il a signé un accord cadre avec l'État afin d'intervenir dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'énergie, de l'éducation et de la santé dans la région des Kayes, Koulikoro, Mopti et Tombouctou.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
La première journée de la phase des groupes de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a pris fin hier mercredi. Les matchs de cette journée ont réservé beaucoup de surprises et de rebondissements. Elle a aussi été marquée par une certaine efficacité des équipes car aucun score vierge de 0-0 n'a été enregistré. Le résumé avec Sita Sidibé.
Un début de CAN avec des surprises. On peut entre autres noter la défaite du Ghana face au Cap-Vert et de la Tunisie face à la Namibie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, le Sénégal tenant du titre, le Maroc demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde ont tenu leur rang. Ils ont tous emporté leur premier match. Les autres pays ayant rapporté leurs premiers 3 points sont le Mali, le Burkina, la Namibie. Le Nigeria, également annoncé comme un favori, a été tenu en échec par la Guinée équatoriale. Après cette première journée, la Côte d'Ivoire mène la danse dans le groupe A. Le Cap-Vert surprend dans le groupe B. En se hissant premier devant l'Égypte et le Ghana, le Sénégal champion en titre confirme dans le groupe C. Dans le groupe D, le Burkina est seul en tête. Le Mali premier de la poule E devant la Namibie grâce à la différence de but, alors que le Maroc est seul leader du groupe F. Signalons que cette première journée a été prolifique en but. 27 buts ont été inscrits et aucun score vierge de 0-0 n'a été enregistré.
La deuxième journée de la phase des poules CAN Côte d'Ivoire 2023 a débuté aujourd'hui. La Guinée équatoriale s'est imposée face à la Guinée-Bissau par un score de 4-2. Actuellement, la Côte d'Ivoire, le pays hôte, joue contre le Nigeria. À 20h, l'Égypte affrontera le Ghana. Demain, le Cap-Vert sera face à la Mozambique à 14h. Le Sénégal champion d'Afrique joue contre le Cameroun à 17h et la Guinée-Conakry à affronte la Gambie à 20h. Après sa victoire sur l'Afrique du Sud lors de la première sortie, des supporters à Korogo fondent un espoir sur l'équipe malienne. Ils estiment que les Aigles peuvent aller loin dans cette compétition. Nous les écoutons au micro de notre envoyé spécial Zamogon.
Je n'ai pas l'intention d'aller au Mali sans la coupe. On a passé 3 nuits en cours de route. Notre match contre la Tunisie sera difficile, mais nous allons gagner.
On nous a fatigués en cours de route, mais les joueurs nous ont rendus heureux. Du courage à eux.
On a passé 3 nuits sans dormir, mais ça va maintenant. On pensait que la Namibie était l'équipe la plus faible, mais elle a battu la Tunisie. Donc le Mali va gagner le reste de ses matchs.
Notre rôle, c'est de supporter et c'est ce que nous faisons.
Toutes les régions sont représentées ici et nous avons le même souhait, que le Mali remporte la coupe.
Les Aigles du Mali peuvent bien arracher la victoire des griffes des Aigles du Carthage ce samedi 20 janvier 2024, a soutenu Drissa Nyono, un consultant sportif. Selon lui, le Mali part favori de ce duel des Aigles, surtout avec sa victoire laborieuse contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Il est au micro de Fatih Yatara.
Face à la Tunisie, c'est un match également qu'il ne faut pas négliger parce que la Tunisie a perdu. Elle viendra également avec pour ambition d'avoir un résultat positif. Ce sera également un truc de revanche entre les deux pays. Je pense que les Aigles pourront se qualifier. Maintenant, c'est que ce ne sera pas quand même un match facile. Ça, il faut le reconnaître parce que côté tunisien également, ils n'ont pas retrouvé leur football face à la Namibie parce que la Namibie était beaucoup plus physique. Mais nous, on est à la fois technique et également physique et on retrouve cette solidarité entre les joueurs. On l'a retrouvée face à l'Afrique du Sud et je pense que si on s'applique beaucoup et qu'on respecte les consignes du coach, et le Mali pourra également battre la Tunisie.
La CAN, en une anecdote, nous amène à l'édition 2006, plus précisément à la séance de tir au but interminable entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun en demi-finale. Mariam Maïga nous fait le récit.
Ce jour-là, les deux équipes sont à égalité au bout du temps réglementaire. Les choses semblent se décanter en prolongation avec l'ouverture du score de Baki Kone pour les éléphants. Mais Albert Meyongze lui répond dans la foulée et remet les deux équipes à égalité. La décision se fera donc au tir au but. Après les 22 premiers tirs, Samuel Eto'o s'élance pour sa seconde tentative et rate son tir. Didier Drogba se présente à nouveau, prend ses responsabilités et envoie la Côte d'Ivoire en finale de la compétition. Avec 24 tentatives au total, cette séance reste pour l'heure la plus longue de l'histoire de la CAN.
Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Fili Dambélé assurait la technique. Juste après le magazine, vous aurez la rediffusion du Grand Dialogue du 3 janvier dernier, dont le thème est la transition en 2023 vue par la classe politique. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Place maintenant à notre magazine Tous les enfants du Mali. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, les espaces publics sont devenus des lieux de rendez-vous pour de nombreux amateurs de football. Et ce n'est pas qu'une affaire d'adultes. Les enfants s'y invitent également pour se divertir et profiter de ces moments uniques. Sauf qu'au même moment, les cours se poursuivent dans les écoles. Trouver le bon équilibre entre les études et le suivi des matchs devient donc l'un des enjeux de cette période de fête, mais aussi la sécurité de ces enfants qui demeure une préoccupation majeure pour les acteurs. C'est un magazine réalisé par Issa Oumar Togola.
J'adore cet endroit. Il y a des gens qui cabrent leur moto. On siffle, on court avec le drapeau du Mali sur la route.
J'ai quitté la maison pour suivre le match ici. C'est plus intéressant. Et il y a des coupures chez nous aussi.
Ces témoignages sont des enfants que nous avons rencontrés ce mercredi à la place CAN à Bamako. Dans les autres espaces publics mis en place pour la diffusion des matchs à Bamako, comme dans les régions de Ségou, Sikasso et Kayi, c'est plus ou moins la même situation. Les enfants s'intéressent à ces petits moments de fête.
Moi, ça me rend tout simplement heureuse.
C'est plus visible avec l'écran géant. On voit clairement les joueurs comme si on était sur le terrain.
Il y a la foule ici, cela me rend heureuse.
J'adore regarder les matchs. Et j'aime les joueurs également.
Après les matchs, on a juste envie de dormir. On ne peut plus apprendre nos leçons.
C'est certainement l'une des préoccupations durant cette période de distraction unique pour les enfants. Pourtant, certains parents se veulent rassurants et ils estiment que la CAN et l'école riment sans difficulté majeure.
Pour les matchs de 14h et 17h, les enfants peuvent suivre lorsqu'ils sont compatibles avec leur emploi du temps à l'école.
Les cours ne s'arrêtent pas à cause de la CAN et même les cours du soir se poursuivent. On les laisse suivre des matchs, mais ils apprennent leurs leçons également.
Certains pédagogues iront même plus loin. Pour Dr Moussa Cissé, les enfants ont aussi besoin de vivre ces moments exceptionnels et il estime que les autorités scolaires devraient prendre des mesures en conséquence.
Normalement, c'est à l'administration scolaire de prendre des décisions. Ils peuvent donner un congé partiel pour permettre vraiment aux enfants de bien savourer l'événement. C'est aussi vraiment un bon espace pour les enfants, contribuer à leur éveil, à leur éducation. En laissant les enfants aller à l'école là, ils ne vont pas suivre parce que l'attention est prêtée sur le thème du jour qui est le football.
Mais en plus de la gestion de l'emploi du temps, harcèlement scolaire, l'autre défi concerne la sécurité des enfants. Là encore, les parents rassurent.
Les enfants sont toujours accompagnés par leurs grands frères qui les surveillent.
Et lorsqu'il s'agit de match vers 20h, c'est un réel danger pour la sécurité des enfants.
Mes enfants sont toujours accompagnés par leurs aînés. Ils y retournent ensemble.
On leur dit de ne pas se jeter des pierres pour manifester leur joie et de ne pas s'amuser sur la voie publique. On leur dit cela à la maison, mais on ne les accompagne pas sur les lieux.
Du côté des organisateurs, on dit avoir pris des mesures nécessaires. Mais malgré cela, les petits dégâts se produisent souvent, ce qui oblige nos intervenants à rester vigilants.
On a des policiers et des vigiles. On dit aux parents de ne pas se séparer de leurs enfants pour qu'il n'y ait pas de dégâts ou de pertes. Mais il est toujours difficile de gérer la foule. Il y a eu des cas de pertes d'enfants, mais après l'annonce au micro, ils ont été retrouvés par leurs parents.
Lorsque les gens rentrent chez nous avec leurs enfants, les agents de sécurité n'acceptent pas que les enfants sortent sans être accompagnés. Sinon, cela peut nous causer des problèmes.
C'est ainsi que les choses vont se poursuivre jusqu'au 11 février qui marquera la fin de cette CAN 2023. Et pour maintenir l'ordre durant cette période, certains citoyens demandent aux autorités de prendre des mesures nécessaires pour encadrer ce public indiqué. C'est ce qui met fin à ce magazine Tous les enfants du Mali réalisé par Issa Omar Togola.